11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le vendredi le 3 février 2023, il sont 11h et à vous toutes et à vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Radio Canal FM, sur Radio Lumière, sur Radio La Paix, la voix des plateaux à Takwame, sur Central FM à Sokodé, sur Sama FM à Baga, sur Radio Daoul à Bassa, sur Radio Courtoisie en direct à Dapan. Mais également dans le monde entier par le biais des radios numériques ou bien l'application Canal FM ou encore YouTube. Nous vous saluons le Club de la Presse avec à la technique le duo Datevi Thomas et Gérald Kodjo Akucha. Au studio, deux confrères déjà qui s'installent, qui sont en place. Nous entendons incessamment le troisième. Mais commençons par faire la connaissance de ceux qui sont avec nous. Vous savez que nous avons convenu depuis cette année de vous saluer dans les langues du pays. C'est pourquoi nous vous saluons dans la langue Bafang. Nous allons avec notre ami Louis Magloa Kemayou. Bonjour.
Merci, bonjour.
Là, c'est l'une des langues du Cameroun.
Oui, il y en a plusieurs. Nous en avons plus de 200 au niveau du Cameroun parce que non seulement nous considérons le Cameroun comme l'Afrique en miniature, mais à côté de ça...
Pas les seuls. Le Togo aussi se veut l'Afrique en miniature.
Voilà, donc je pense que nous avons ce point en commun, oui. En plus de celui d'un passé de domination coloniale qui fut à peu près le même.
Oui.
Et puis à côté de ça, vous avez également le fait que la densité de la population n'est pas toujours très importante et par moments, vous arrivez au bout de 50 km à tomber sur un nouveau village et donc l'accumulation de villages et de langues fait que nous en avons à peu près 200 voire 250 aujourd'hui.
Donc le groupe ethnique dont tu es ressortissant, les Bafang, vous vous saluez, Nzele, pour dire bonjour.
Pour dire bonjour.
Alors en face de toi, sur la montagne Bassa, eux ils se saluent à Poya. Bonjour Franco.
Bon, un peu maintenant.
À la FIA. Oh. Tu vas bien?
Oh, à la FIA.
Alors dans l'émission d'hier, un auditeur intervenait et faisait le constat que avec la suspension de Tampa Express, est-ce que eux, les auditeurs, pourront encore avoir le plaisir d'avoir les commentaires de Franco? J'avais dit que c'était le journal papier qui était suspendu et pas la personne de son directeur. Là, tu confirmes?
Ah oui, je confirme que Francisco Napokura, il demeure journaliste et puis un leader d'opinion dans le pays. Au-delà de la carte de presse, j'ai le droit d'intervenir sur tous les dossiers du pays.
Merci. Nous attendons un troisième confrère qui va nous rejoindre incessamment. Ce sera pour des raisons indépendantes de sa volonté. Vous connaissez la formule. Mais on peut déjà découvrir la pensée du jour. Quand Aristote a écrit que seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Encore une fois, seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l'accepter. Pour dire, lui, ma gloire, que la démocratie que nous voulons tous pratiquer nous demande d'être tolérants vis-à-vis des opinions des autres, même si nous sommes pas toujours d'accord avec cela.
Je pense que c'est d'avoir même le respect des opinions avant même d'être la tolérance, parce que la tolérance, c'est comme si on faisait grâce à quelqu'un d'avoir une opinion. C'est d'avoir le respect des opinions. On doit comprendre que nous ne sommes pas tous pareils et qu'il peut arriver que nous ayons des opinions différentes. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va se faire la guerre ou qu'on ne se parlera plus. Ce n'est qu'une expression de notre diversité d'êtres humains, de notre diversité culturelle et de tout ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains. L'altérité est une bonne chose, je pense, dans toute société.
Et en d'autres termes, hein, pour ironiser un peu avec Franco, lui, ma gloire, un confrère qui est sous sanction pour une information qu'il a diffusée n'est quand même pas un banni de la société.
C'est vrai que je l'ai salué ainsi ce matin en arrivant, mais oui. Non, il n'est pas banni. Il a probablement commis une infraction, mais qui ne se trompe pas dans la société. Comme dirait quelqu'un, que celui qui n'a jamais commis cette faute-là lui jette la première pierre. Donc, je crois que les sanctions.
Et tu sais qui a dit ça?
Comment?
Et tu sais qui a dit ça?
C'est Jésus.
Quand les gens ont amené une femme accusée d'adultère,
oui,
hein, pour qu'il la condamne,
oui,
et il leur a demandé que celui d'entre ceux-là qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la suite, vous la connaissez?
Oui, bien sûr. Donc,
merci. Bien, c'est parti. Et comme nous sommes en fin de semaine, c'est de tradition. Le vendredi, nous revenons sur les sujets majeurs de la semaine. Et cette semaine, la liberté de presse est d'actualité depuis le Cameroun jusqu'à chez nous ici au Cameroun. Quand le journaliste animateur Martinez Zogo a été enlevé, torturé à mort, son corps jeté en pâture aux charognes sur un dépotoir, information qui continue à produire une onde de choc, des condamnations tous azimuts, des indignations, incompréhensions. Nous allons en parler, puis venir chez nous ici avec cette sanction qui est tombée sur deux journaux, alors qu'on nous annonce qu'il y a deux plaintes sur dos contre deux autres journaux. Nous allons en parler aussi. Autre sujet au menu, c'est le souhait vivement que l'Afrique redevienne maîtresse de ses richesses et de son destin. Le Togo se trouve dans la dynamique de la commémoration il y a 49 ans de l'attentat d'avion ou bien de l'accident d'avion à bord duquel se trouvait fait le président Gnassingbé Eyadéma, qui quelques jours après avait nationalisé l'une des ressources nationales du Togo. Ça d'abord chez nous aussi au Togo, avec cet appel que le pape François a lancé à Kinshasa, appel que d'aucuns qualifient de coup de gueule contre ceux qui veulent s'en prendre en Afrique. Nous allons en parler donc, l'Afrique maîtresse de ses richesses et de son destin. Et puis, dans la foulée, coopération Sud-Sud avec Faure Gnassingbé, qui revient du Gabon, pendant que le Premier ministre burkinabé est en tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Il est passé par chez nous, au Togo, il est au Mali actuellement. Voilà ce dont nous allons parler, si nous avons le temps. Nous allons parler de l'éducation au Togo avec le phénomène de la drogue qui envahit toute la société et le ministre Kokoroko qui ne veut pas de drogue dans les écoles. Kokoroko qui veut également recadrer les semaines culturelles. Voilà le menu avec notre troisième mousquetaire qui nous rejoint. Vous avez deviné avec celui que, si je vous dis, c'est le journaliste qui transporte la forêt vierge sur sa tête et avec son menton. Vous avez deviné, c'est Germain Sohanapouli. Jasmin.
Ah, la fille.
Tu vas bien?
Je vais contribuer au milliard d'arbres.
Oui. Et après, on va demander à lui. Nous allons cotiser pour acheter une montre à Germain, comme ça, il ne sera plus en retard au club de la presse. Germain.
Ah, toutes mes excuses.
Non, non, c'est pas d'excuses.
Aux auditeurs d'abord.
Ton excuse, c'est que tu n'as pas de montre. On va t'en acheter une.
Surtout que mon portable n'a pas de montre.
Eh bien, c'est parti. Premier sujet, donc, avec Louis Magloire, Kemayou, Francesco Napo, Kouraepu, Germain Essor à Napoli. La liberté de presse soumise à des rudes épreuves, comme je viens de planter le décor. Commençons par les suites de ce qui est arrivé au confrère Norbert, plutôt Martinez Zogo, avec le Veille de la Nation qui écrit que la communauté camerounaise vivant en France a manifesté et exige que justice soit faite sur les circonstances de l'enlèvement et de la tragique disparition de Martinez Zogo. Sûrement que sur ce plan-là, Magloire, tu peux avoir quelques indiscrétions à partager avec nous sur les suites de cette tragique disparition de confrères.
Oui, déjà, je pense qu'il n'y a pas que la communauté camerounaise en France qui a manifesté, parce que c'est l'ensemble de la nation qui a subi, comme tu le disais au début, une onde de choc avec cet enlèvement qui a duré 3 jours, puis l'assassinat et la découverte du corps. Il y a eu une manifestation au niveau de la communauté camerounaise en France, il y en a eu au niveau de la Grande-Bretagne. Les autorités camerounaises dans ces pays-là ont également participé aux manifestations, puisqu'elles ont déposé une gerbe de fleurs en la mémoire du journaliste disparu, Martinez Zogo. Et au niveau du Cameroun également, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment une enquête qui a été ouverte. Les premières arrestations ont eu lieu et nous espérons que la vérité finira par être découverte sur les circonstances dans lesquelles il a été arrêté, maltraité, tué et puis jeté dans un espace comme si c'était une âme en peine, un animal, une bête de somme qu'on avait poursuivi dans une chasse à la cour et qu'on avait assassiné.
Certaines sources laissent entendre que c'est le président Paul en personne qui aurait diligenté la commission d'enquête.
Cela me ferait plaisir que ce soit le président Biya qui l'ait fait, mais ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, la police camerounaise a, sur les premières arrestations qu'ils ont effectuées, identifié les personnes qui l'ont arrêté. Elles ont annoncé qu'ils leur avaient commandité le crime. Ça indique même que la personne qui a commandité ce crime a donné l'ordre d'achever quand on avait atteint un seuil de maltraitance. Donc cette personne a été interpellée aujourd'hui. On attend de savoir ce que nous disent les autorités par rapport aux éléments qu'elles ont recueillis. Mais c'est une enquête et comme vous le savez, on part toujours du principe qu'il y a une présomption d'innocence qui couvre la personne qui est arrêtée ou les personnes qui ont été arrêtées. Mais il s'agit quand même de personnalités très importantes au sein de la République, d'hommes d'affaires et de policiers de haut rang qui sont impliqués dans cet enlèvement et dans cet assassinat.
Ce matin, j'ai écouté quelques commentaires sur l'émission RFI de notre ami Juan Gomez, auditeur qui avait appelé, laissé entendre que l'affaire Martinez Zogo serait pratiquement une affaire d'État au Cameroun, je ne sais pas trop. Mais lui, Magloire, Zogo, il dénonçait la corruption, il est très fort, il s'en prenait à ce qui lui apparaissait comme inconduite en matière de gestion des affaires de l'État. Alors, tout en laissant soin à l'enquête de nous situer, est-ce qu'on peut dire que c'est l'État camerounais qui serait commanditaire de son enlèvement, de son assassinat, ou bien plutôt certaines personnalités qui s'estimaient un peu mise à nu dans les commentaires de notre confrère?
Peut-être que je ne serai pas assez impartial dans le commentaire que je vais faire parce que je suis tout de même ressortissant camerounais et l'image de mon pays a une importance pour moi. Mais le fait est que depuis la fin des années 90, il y a une véritable liberté de la presse au Cameroun. Les autorités ont estimé jusque dans les années 90 où les journalistes étaient pourchassés, emprisonnés, où on saccageait souvent les locaux des journaux ou bien des radios, les autorités ont pris la ferme mesure de s'en prendre non plus aux policiers qui font le sale job, mais de s'en prendre à leur chef. C'est-à-dire que s'il arrivait quelque chose à un journaliste au Cameroun, c'est pendant cette période-là, et que la responsabilité d'un commissariat était engagée, en l'occurrence le commissariat où cela s'est passé, on n'allait pas essayer de savoir quel policier a commis le forfait. Ce sont directement le commissaire et toutes les personnes liées dans la hiérarchie au commissaire qui seraient sanctionnées. Mmh. Voilà ce qui a fait baisser ce genre de pratique qui était vraiment déshonorante pour le Cameroun, pour sa démocratie et pour son image. Et au bout d'un certain temps, les mauvais démons reprennent certaines personnes. Mais là, il ne s'agit plus de l'État. Même si les sanctions sont prévues dans la Constitution, il y a aujourd'hui un certain seuil de tolérance qui fait que les journalistes ne sont plus systématiquement attaqués en justice. Et donc, pour ça, j'estime que l'État du Cameroun a fait sa part du job. Cependant, au sein de l'État, vous avez des personnes, et ces personnes ont leurs états d'âme, peuvent, à titre personnel, rester en justice et par moment obtenir gain de cause. Et si cela se fait par la voie normale ou même par la voie de la pression ou de la corruption, ce n'est qu'après un appel que vous pourrez peut-être obtenir gain de cause à votre tour en tant que personne attaquée. Et donc, dans le cas de certains journalistes, il y a eu des exactions qui ont été commises, mais elles ont été commises par des personnes. Il y a aujourd'hui une lutte de clans à la tête de la majorité au Cameroun qui fait que certains coups sont permis. Certains gens se permettent...
Permis, entre guillemets.
Les gens se permettent certains.
Voilà, je préfère cela.
Et donc, le gouvernement ne peut pas être directement impliqué là-dedans. Ce n'est pas l'État. L'État, il est impartial, il est éternel. Mais les gens passent, et ce sont malheureusement les gens qui représentent l'État. Et ces gens qui représentent l'État ont pris des décisions qui sont condamnables, sur lesquelles aujourd'hui des enquêtes ont été ouvertes. Et j'espère, je suis à peu près convaincu, que ces enquêtes iront jusqu'au bout et que les personnes impliquées dans ce crime crapuleux seront condamnées avec toute la sévérité de la loi.
Eh bien, Franco, d'après les indiscrétions qui nous parviennent par les médias et par les réseaux, on apprend que une enquête a été diligentée au Cameroun. Certaines personnes ont déjà commencé à être interpellées, interrogées. Est-ce que tu es optimiste que les investigations vont aboutir jusqu'à la justice et qu'on ait toute la lumière, ou du moins une grande partie de la lumière, sur les circonstances de la tragique disparition du confrère?
Oui, c'est la première fois qu'une enquête de ce genre va très rapidement avec l'arrestation de diverses personnes et puis de hautes personnalités. Vous savez, le problème au niveau du Cameroun, c'est autour de l'association Paul Biya. Et là, au Cameroun, les journaux, c'est pas comme au Togo. Les journaux, chaque journal a pratiquement derrière lui un bon bailleur. Hein. Quand on dit un bon bailleur, c'est des hommes d'affaires qui sont derrière, ou des hommes politiques, ou même on retrouve, parce que parmi les dénonciations de Zogo, il y a par exemple un média très très influent, comme on l'appelle, j'oublie un peu le
Vision
nom.
4.
Vision 4, qui est même budgétisé, c'est-à-dire que au même titre que les ministères. Et donc on a une ligne budgétaire pour un média. Et là, Dieu merci que la presse togolaise, même entre-temps, avait été très vigilante. Donc, lorsque le patron de ce média avait visité le Togo, et j'étais un coup d'œil au service de renseignement, qui ont fait un travail pour montrer que c'est pas quelqu'un qui peut avoir une place dans la sphère, disons, médiatique au Togo. Donc, on va espérer, c'est la lutte des classes, à tout moment, on peut sacrifier une ou deux personnes, et puis on fait la paix des braves. Mais espérons, parce que ce qui s'est passé au Cameroun, ce n'est pas de ce siècle, c'est vraiment sauvage. Et aucun être humain ne mérite ce sort.
Merci Germain Pouli. Louis Magloire disait tantôt, tenter de faire une distinction entre la responsabilité qu'on peut imputer à l'État dans de telles affaires, et également certaines personnes, personnalités dans le système ou tournant autour du système, surtout des réseaux, des proches ou pas du pouvoir. Et en cela, pour nous faire dans toute la lumière, il faut vraiment souhaiter que les enquêtes se poursuivent avec le maximum de curiosité et de courage. Et comme ça, on saura ce qu'il en est de ceux des commanditaires et exécutants de cette basse manœuvre.
Oui, tout à fait. Et en plus du courage, il faut beaucoup d'indépendance. Je pense, voilà, que c'est pour ça que le président a fait aussi appel à une certaine expertise israélienne dans cette affaire. Je crois qu'il y a les Israéliens qui ont été associés donc pour que l'affaire ne reste pas à 100% camerounaise, hein, pour que plus de lumière puisse être faite. Donc à ce niveau-là, il faut saluer le gouvernement, surtout le président de la République, qui a pris personnellement à cœur cette affaire-là, qui n'honore pas
Paul Biya du Cameroun. Biya,
voilà, qui n'honore pas du tout ce pays, hein, parce que la sauvagerie, comme le disait Francisco tout à l'heure, la barbarie avec laquelle ce frère a été assassiné a créé beaucoup d'émotions partout en Afrique. Je pense que dans le reste du monde où l'affaire a été connue, et le président Paul Biya a pris la mesure donc de la gravité de la situation. Et je crois que là, il y a une certaine célérité aussi. Il y a plein de dispositions qui sont prises pour que les éventuels suspects ne puissent pas se soustraire. Bon, en même temps, hein, espérons que ça se fasse avec professionnalisme aussi, que des innocents ne soient pas arrêtés à la place des coupables et que lumière soit faite. Mais je crois que rien qu'à lire quelques titres des journaux camerounais, donc ils sont optimistes. Je crois réellement que quelque chose va se faire dans les semaines, dans les jours, les semaines qui suivent, pour clarifier cette situation-là. Il y a assez d'images aussi qui circulent. Vous avez vu que très rapidement, on a pu repérer la voiture qui a poursuivi le journaliste. Et même pas plus tard qu'hier, je voyais même des images de ceux qui ont transporté le corps pour aller le jeter là-bas. Donc, c'est dire que les nouvelles technologies ont été mises en branle dans cette histoire-là. Félicitations au gouvernement camerounais et que vraiment justice soit rendue, et non seulement aux journalistes, mais à la presse camerounaise et africaine dans son ensemble, parce que ça refroidit aujourd'hui la presse dans ce pays-là. Et c'est le genre de situation qui fait que après il faut réfléchir par deux fois avant de dénoncer certaines choses.
Merci, il faut se réjouir de plusieurs choses. C'est la solidarité confraternelle dans le monde des médias sur tous les continents, condamnation tous azimuts, la volonté assez clairement affichée des plus hautes autorités du Cameroun pour les enquêtes, et avec la technologie, on va pouvoir tout tracer et arriver jusqu'aux commanditaires, aux exécutants. Et quand la lumière sera faite autour de la mort tragique de Martinez Zongo, espérons, lui ma gloire, que la lumière qui se fera là-bas va dissuader ces malins esprits qui seraient tapis dans l'ombre ici et là pour s'en prendre aux journalistes.
Oui, je pense que si les gens se sont mobilisés aussi fortement au Cameroun, à l'extérieur du Cameroun par rapport à cela, c'est qu'il y avait quand même une volonté de dissuader les gens de faire leur travail, de travailler dignement et professionnellement sur des choses qui doivent être expertisées. C'est-à-dire que quand on parle de détournement de fonds, qu'on parle de gestion douteuse des ressources de l'État, on doit apporter des preuves. Et si des accusations ont été portées, notamment contre Jean-Pierre Belinga Amougou, puisque c'est actuellement la première personne qui a été arrêtée dans le cadre de cette affaire, il faut qu'il y ait un travail d'investigation qui soit fait et qui permette de faire toute la lumière. S'il est innocent, la justice passera par là et elle lui sera rendue. S'il est coupable, il paiera pour le crime qu'il a commis. Et il ne s'agit pas d'un seul crime. Il s'agit à la fois des crimes que lui reprochait Martinez Zogo et de l'assassinat du journaliste en question. D'ailleurs, il était question de venir l'arrêter dans son domicile à 8h du matin. Finalement, les policiers ont préféré partir plus tôt. Il a été arrêté dans la nuit vers 22h parce qu'il y avait cette crainte qu'il quitte le pays et qu'il aille se cacher dans un autre pays où on aurait du mal à le faire extrader vers le Cameroun pour la suite de l'enquête. Donc, ce sont des éléments aujourd'hui qui, mis bout à bout, je ne dis pas qu'il le condamne, mais ça fait quand même converger un faisceau de soupçons vers lui qui est très important.
Eh bien, du Cameroun, revenons chez M. Togo, où Dieu merci, aucun journaliste n'a été enlevé, torturé ou mort. C'est seulement des organes suspendus par la HAC depuis hier, ce qui fait l'actualité chez nous. Revue de presse avec l'Échiquier qui parle de sévère condamnation du journal Liberté, pendant que le Canard indépendant à la page 6 écrit deux organes suspendus de parution pour 3 mois, deux autres confrères assignés en justice, et que l'alternative en fait sa manchette, hein, suspension de liberté et de Tampa Express, la mise à mort programmée de la presse indépendante au Togo. Et Miroir Info qui nous rappelle que suite à cette double sanction contre Tampa Express et Liberté, Zeus Komi Aziadouvo, qui était jusqu'à hier membre de la HAC, a écrit à son président pour se désolidariser des décisions de la HAC et en même temps remettre sa décision qui n'est que la confirmation des désaccords que Zeus Aziadouvo a toujours exposé sur nombre de sujets. Lui, Magloa, il ne sait pas par quel... Bon, commençons par la décision de Zeus Aziadouvo de signifier à ses camarades qu'il n'est pas d'accord avec la méthode, avec les sanctions et les désaccords qu'il expose, et puis il remet sa démission.
Alors, je n'ai pas l'intégralité du dossier pour m'exprimer de façon précise et inattaquable, mais ce que je peux dire, c'est que c'est déjà bon signe que dans une institution comme la HAC, on ait cette divergence d'opinion-là qui s'exprime, y compris en public, qui fait comprendre qu'à l'intérieur de la HAC, on n'a pas caporalisé les gens. Les gens ne sont pas aux ordres d'une personne et que les personnes qui sont là ne pratiquent pas une espèce de solidarité comme dans le gouvernement où quand une personne s'est exprimée, il y a la solidarité gouvernementale qui protège. Donc c'est déjà bon signe pour une institution comme la HAC que les choses se passent ainsi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut quand même dire que le gouvernement fait énormément d'efforts aujourd'hui pour soutenir les entreprises. On l'a déjà vu pendant la période du Covid et on le voit aujourd'hui également dans le contexte qui est celui de la crise actuelle où malgré la vie chère, malgré la vie qui est rendue chère par la Covid et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, que des efforts sont faits pour préserver les entreprises afin qu'elles ne tombent pas. Mais si on estime qu'une entreprise de presse n'est pas une entreprise et qu'on peut la priver d'activité et donc priver ses salariés de revenus, priver les familles dont ces membres-là sont les ressources d'argent, les empêcher de gagner honnêtement leur vie, je pense que ce n'est pas bon signe. Quand on commet un crime, la justice est là pour vous aider, d'une part, à comprendre que vous avez fait quelque chose qui sort du cadre social et que le contrat social consiste à vous apprendre à revenir dans la norme. Et la deuxième chose, c'est réparer le tort qui a été fait à l'autre personne en face. Mais aucunement, la justice n'est là pour assassiner, pour mettre les gens dans une situation désagréable où, malgré tous les efforts qui ont été faits pour soutenir les entreprises et la presse, l'on se retrouve avec une presse dépendante encore du gouvernement, avec des journalistes qui sont quasiment clochardisés. Personne ne souhaite cela, je suis le dernier à le souhaiter. Surtout que nous sommes quand même dans ce pays, le Togo, où New World TV a remporté les droits de diffusion exclusive de la Coupe du Monde. Et on ne peut pas faire comme si la lumière n'est pas aujourd'hui
placée. Et à ce moment-là, il y avait unanimité au sein de la presse togolaise pour saluer les prouesses du confrère New World TV.
Donc, si on salue cela, on ne peut pas empêcher d'autres champions de naître. L'idée aujourd'hui, c'est de faire que la presse togolaise se professionnalise et que dans le sillage du New World, elle devienne une presse qui peut faire envie sur le continent, voire au-delà. Donc ce que moi je souhaite personnellement, c'est que non seulement la HAC s'honore comme elle le fait en exprimant les pluralités d'opinion qu'elle a au sein d'elle-même, mais surtout qu'au-delà de cette expression de pluralité, on sanctionne les journalistes pour leur apprendre à respecter le travail, non pas pour les empêcher d'exercer leur métier, non pas pour rendre leur famille nécessiteuse parce qu'elles ne peuvent plus avoir le revenu auquel le chef de famille pouvait prétendre. J'espère que tout ça sera pris en compte dans les décisions qui seront rendues à l'avenir.
Merci pour cet aspect que tu évoques. Juste rappeler que au terme du nouveau code de la presse qui est entré en vigueur depuis quelques jours, les médias sont invités à devenir de véritables sociétés avec du personnel qu'ils emploient en amont et en arrière, et avec la suspension pour 3 mois de liberté qui est quotidien et Tampa Express qui est bimensuel, on peut imaginer un peu le sort des directeurs de ces deux organes, de leurs collaborateurs et également tout ce que ces médias génèrent dans l'économie. On peut avoir une idée et se rappeler également que un autre journal, The Guardian, qui avait écopé d'une suspension, tarde toujours à revenir. Et entre-temps également, des médias avaient été fermés, comme LCF et comme Radio Légende, et plus loin encore comme Radio qui est à combien copie là
X-Solaire,
avec tous les dégâts collatéraux consécutifs à cela. Mais revenons donc à ces sanctions, Germain, pour rappeler que d'après les éléments de langage, disons les communiqués de la HAC, il est pour liberté, c'est consécutivement à un article sur le convoi de la Première ministre. Liberté avait été condamné en première instance. Liberté a fait appel et la cour d'appel a confirmé. Donc, ce qui amène la HAC à confirmer elle aussi la suspension. Pour Tampa Express, c'est un article sur M. Gaffin qui n'a pas été content, qui a apporté ces éléments de réponse. Et puis là, on n'est pas allé à la justice. Mais c'est la HAC qui s'est arrogé le droit de suspendre Tampa Express pour 3 mois.
Ouais, non, je crois que là, on arrive aujourd'hui à des situations qui nous amènent à respecter la loi. Et vous savez que ces suspensions ne sont pas les premières. Il y a eu la suspension du journal Symphony dont on n'a pas parlé.
Si, nous en avons parlé en son temps.
Oui, oui, je parle d'aujourd'hui.
Comme Fraternité, comme l'Alternative,
et bien d'autres aussi. Qui avait attaqué la décision de la HAC et qui a eu gain de cause. La HAC était obligée de lever la suspension.
Oui,
je crois que quand vous analysez ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs cas où l'affaire est passée à la justice. Et même la HAC, avant de se prononcer pour des sanctions plus graves, doit passer aussi par la justice avant de le faire. Donc nous arrivons dans des situations où il faut respecter la loi et c'est là où nous aussi, en tant qu'acteurs de la presse, nous devrions apprendre à connaître ces lois-là. Et on était contents, on avait salué ici ensemble quand le confrère Yves Gallet était là et je le taquine souvent, je dis c'est le journaliste qui a gagné face à la HAC.
Mais il n'est pas le premier. Hein. Le premier, c'était Daniel Lawson-Draquet, avait lui aussi attaqué une décision de la HAC et qui a été gagnant lui aussi.
Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, et quand on prend le cas de Liberté, il y a eu un recours qui a été fait à la justice. Et nous, en tant que journalistes, notre souhait, c'est vraiment pas que les affaires aillent à la justice. Nous avons un tribunal qui est l'OTM, mais j'ai eu la chance de siéger au sein de cet observatoire-là. Et parfois, nous courons derrière les plaintes pour que les gens les ramènent à l'OTM. Mais parfois, c'est un peu tard, c'est déjà parti à la justice. Et quand c'est à l'OTM, je crois que c'est plus facile pour les journalistes. Et même quand ils ont tort, ils peuvent réparer. La loi prévoit des moyens de réparation. Et donc, c'est facile. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui se sentent lésés et qui attaquent la justice. Les procédures sont parfois un peu plus longues, quand vous prenez le cas avec le convoi de la chef du gouvernement. Le journal annonce que ce convoi a tué une personne, alors que l'information n'est pas avérée. Bon, je crois que ce que le confrère avait à faire, peut-être, c'était de présenter ses excuses.
Justement, suite à l'apparition, il y avait une rencontre entre Liberté et la HAC. Et dans le jour qui ont suivi, la Liberté avait produit un rectificatif sur le douloureux incident.
Oui, moi, je ne parle même pas de rectificatif. Ça, c'est le schéma que la loi. Ben, on peut. Et faire en sorte que ça n'aille pas. Nous, quand tu as le terme pour retirer les plaintes, c'est compliqué. Les gens, une fois qu'ils sont là-bas, veulent qu'on leur rende justice. Et quand le journal n'est pas d'accord avec la première décision qu'il interjecte à peine, donc là, la justice suit. Mais pour la presse, moi, je pense que nous, notre souhait, c'est vraiment pas d'aller à la justice. C'est de pouvoir régler ça à l'amiable, avec les dispositifs que nous avons, avec le tribunal des pairs qu'on a mis en place. Bon, maintenant, comme l'affaire est judiciaire, peut-être qu'il faut la conduire jusqu'au bout. Est-ce que le journal va se pouvoir en cassation parce que estimant qu'il n'a pas tort aussi, il estime que...
Pour ce qui est de liberté.
Oui, oui, voilà. Mm-hmm. Mais n'attend pas express, je crois que là aussi c'est lourd. C'est vrai que, bon, 3 mois, mais en même temps, j'ai pas lu l'article. Je crois qu'on l'avait commenté légèrement ici, mais je l'ai pas lu pour voir tous les dégâts que ça a pu causer à l'ancien directeur général.
Monsieur Gaffin.
Monsieur Gaffin. Maintenant, le patron du journal est là. Est-ce qu'il a trouvé une formule pour régler ça à l'amiable? Ou bien est-ce que, bon, une fois la hack, c'est un chemin de non-retour, il faut que ça se passe comme ça, mais c'est un peu déplorable. Et nous devrons nous battre pour que notre tribunal fonctionne.
Merci. Franco, tu es parti dans cette affaire. Je ne sais pas si tu te sens en liberté de nous parler un peu du fond, mais ce que je disais tantôt, Germain, en évoquant le camp de Symphony, qui n'était pas d'accord avec une décision de la HAC et qui l'a attaqué à la Cour suprême, est-ce qu'éventuellement la rédaction du Tampa Express envisagerait de saisir la chambre administrative de la Cour suprême pour la suspension qui vient de vous frapper?
Merci, Sass. Pour ce qui concerne la suspension de Tampa Express, nous laissons ce volet en termes de recours à nos conseils et qui vont réagir.
C'est-à-dire à vos avocats.
Voilà, mm-hmm. Dans les jours à venir. Et donc.
Mais dans ce cas-là, vos avocats feraient ce que vous leur auriez indiqué.
Oui, justement, oui, c'est en analysant les tests, mm-hmm. Bien sûr, nous avons constaté des excès dans cette sanction, mm-hmm. et donc il faut obligatoirement les relever et s'adresser à qui de droit, donc la chambre administrative de la Cour suprême. Non, ça, on ne laissera rien au hasard, mm-hmm. tout se fera dans les règles de l'art.
Ok.
Voilà. Maintenant, permettez-moi de vraiment, parce que quand j'avais lu la décision de démission de notre confrère Zeus Ajadvor, la partie qui m'a fait couler les larmes, c'est le dernier paragraphe qui dit « Je ne peux donc continuer les... » Voilà, je ne peux donc cautionner les décisions de la plénière de ce jour et je démissionne de la HAC à compter de ce jour. Parce que ça me concerne également, puisque les décisions prises le 1er février 2023, et parmi ces décisions, il y a celle suspendant Tampa Express pour 3 mois. Et j'avoue que ça fait 3 fois, en moins de 6 mois, que Tampa Express a comparu devant la HAC. La première, c'était une auto-saisie de la HAC, même suite à en août 2022, suite à un article que nous avions fait sur l'OTR version Socodé. Et on y était, c'était une invitation, l'ambiance était très bonne. On nous a demandé de faire un rectificatif pour présenter nos excuses. On nous a bien dit à la HAC que le contenu de vos articles, c'est consistant. Et vous avez les faits, mais bon, ajoutez un peu et la manière. Nous avons fait le rectificatif qu'on devait faire, mais bon, contre toute attente, nous avions eu, un communiqué médiatique dans la soirée du jour même de la rencontre, avoir tenté même Tampa Express de tribalisme, d'appel à la haine, ce que nous n'avions pas compris déjà à la première comparution. La deuxième comparution, c'était en décembre, lorsque nous avions fait un article sur le soja, surtout les paysans de Hezoudé, dans Cambolé, qui avait été victime d'une escroquerie, ça, les mots sont bien choisis, et donc qui jusqu'ici n'ont pas été payés, dans l'ordre de 8 millions, un solde qui est resté dans 8 millions jusqu'à ce jour. Et chaque fois, ils vont à la justice se reporte. Et ça, c'était à l'issue d'une plainte du directeur du MIFA, un certain Agbozo Mondé, qui s'est plaint qu'on a diffamé son comptable. Et on nous a demandé notre démarche, nous l'avons exposée. Effectivement, nous avons notifié
Franco, comme cette fois seule qui est ici, je ne souhaiterais pas que on s'étende sur ta version, sur le fond, mais plutôt qu'on reste sur dans le contenu général. Tu disais tantôt que, à ton point de vue, les communiqués que la HAC a sortis après sont en déphasage avec le déroulement des entretiens que tu avais avec eux.
Oui, puisque même quand vous prenez la dernière rencontre du mercredi 1er, quand j'y étais, on avait une bonne ambiance, sauf que toutes les questions qu'on vous pose, parce que moi, je ne parle pas du port parce que il faut parler du port. Je parle du port parce que je connais le domaine portuaire. Ok, je parle de l'administration lorsque je dis qu'un PDG est devenu salarié. Je sais de quoi je parle. Lorsque vous allez prendre la définition de président, directeur général et...
Encore une fois, voilà. Pas trop sur le fond, mais...
Oui.
Je reformule. Oui. Est-ce que les communiqués que la HAC a sortis sont le reflet exact et fidèle des entretiens que tu as eu avec eux, avec les membres de la HAC?
J'ai trouvé un peu encore d'excès. Un peu d'excès. Et j'avoue que c'est la première fois que j'ai trouvé d'excès. Et puis après, il y a eu des interprétations qu'on m'aurait demandé d'aller rencontrer monsieur Charles Gaffin et que j'ai refusé. J'ai quitté une réunion à 11h, c'était de 10h à 11h, et rapidement pour aller à mes occupations. On ne m'a nullement demandé à la HAC d'aller rencontrer monsieur Charles Gaffin, et vous-même, vous savez, l'administration ferme à 17h. Je ne sais pas quand est-ce que la HAC a eu le retour qu'il m'aurait demandé. Parce que ici, les journalistes ont dit hier qu'on m'avait demandé d'aller à la rencontre de monsieur Gaffin. Ils peuvent demander au président de la HAC et à ses rapporteurs. Personne ne m'a demandé d'aller rencontrer.
Merci, cette douloureuse affaire, nous allons suivre. Mais on va continuer un peu avec quelqu'un, un acteur de la société civile qui a un certain courage de manifester, d'exprimer ses points de vue. Il s'agit du professeur David Dessay, qui vient d'être honoré par le département d'État américain. C'était dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 25e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Et le département d'État des États-Unis d'Amérique a distingué une dizaine de personnes dans le monde. Et parmi ces lauréats se retrouve donc notre compatriote, professeur David Dessay, qui est le coordonnateur du Front citoyen Togo Debout, une organisation de la société civile togolaise. Non, le prix, c'est le Global Human Rights Defender Award du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui relève que depuis plus de 15 ans, le professeur David s'emploie à renforcer les capacités de la société civile togolaise à lutter contre l'injustice et l'impunité et à promouvoir les progrès de la démocratie. David Dessay et le Front citoyen Togo Debout, qui sont fortement engagés pour la limitation des mandats en Afrique. Lui, Magloire Kemayou, tu connais un peu David Dessay et quelques aspects de son combat.
Oui, je les ai rencontrés en France et ici, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il est bien de relever quand on parle de ces choses-là, c'est pas uniquement de récompenser ceux qui luttent, ceux qui sont les chiens de garde. C'est également de récompenser les acteurs eux-mêmes. Et ici, je voulais saluer l'action du gouvernement togolais parce que, mine de rien, si M. Dessay peut faire son travail et être récompensé, c'est que quelque part, au niveau du gouvernement également, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il est important de promouvoir la démocratie et de permettre aux acteurs, à tous les acteurs de la scène publique, de pouvoir participer à la promotion de cette démocratie-là. Donc tout cela est très important et il ne faut pas percevoir la promotion ou la distinction du professeur Dossé comme une mise en garde au gouvernement ou comme, comme si on avait donné un bonnet d'âne au, au gouvernement togolais. Au contraire, ça montre que le Togo est en train de faire des pas importants dans la promotion de la démocratie et il faut le saluer et encourager donc tous les acteurs à continuer, pas une partie seulement, mais tous les acteurs à continuer de redoubler d'efforts pour la promotion et la défense de la démocratie.
Je suis d'accord avec lui, Mangloire, sauf que dans le camp du professeur Dossé, David Dossé et de France Citoyenne Togo Debout, on se plaint souvent que le gouvernement les empêche de manifester et d'exprimer publiquement leur point de vue.
Oui, présentement, là où nous sommes, il n'y a plus personne qui arrive à faire une manifestation. Même les enseignants, quand ils se retrouvent pour un point de presse, on vient les ramasser. Tous les syndicats, personne n'a plus chose. Même là, vous voyez, la presse même subit les mêmes choses, les mêmes coups. Donc, dire qu'il y a la liberté de presse au Togo, il y a certains qui tentent de le dire.
Liberté de presse, liberté de manifestation.
De manifestation, certains le pensent, certains le défendent. Mais il faut ne pas rester dans le reportage, parce que quand on parle de presse surtout, il y a ceux qui font le reportage, ceux qui font les comptes rendus, ils n'ont pas de problème. Mais quand vous allez à l'investigation, aller toucher des dossiers, relater les faits, s'en tenir aux faits, et là vous serez dans les viseurs.
Mais je vais
donc
rassurer,
la liberté,
rassurer Francesco, c'est que
lui Mangloire,
le fait est que c'est pas typique au Togo, malheureusement, c'est-à-dire la démocratie est en train de reculer énormément, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil ou dans d'autres pays considérés comme très démocratiques. L'on a assisté à un recul de la démocratie. La dernière élection présidentielle l'a montré aux États-Unis, mais je voulais même repartir sur un pays que nous connaissons bien tous, la France, où les journalistes ont dû se battre pour ne pas avoir à livrer le secret de leurs sources à la justice ou aux politiciens, où les manifestations des Gilets jaunes ont été réprimées dans une extrême violence et que jusqu'à présent, les manifestations continuent d'être non seulement encadrées, mais par moments réprimées avec beaucoup de violence. Je ne veux pas dire que cela permet au gouvernement togolais de dire « je ne suis pas le seul à pratiquer ce type de violence ». Mais ce que je voudrais relever, c'est que nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de toute la vigilance de tout le monde pour préserver les acquis démocratiques, voilà. Qu'il s'agisse du Togo ou de n'importe quel autre pays.
Oui, Franco, tu accouches ?
Oh, je sais pas, parce que la démocratie en recul dans tous les pays du monde, même en France, que ça doit continuer chez nous. Quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, on ne dit pas que il y a des clochards dans les rues de Paris, on dit plutôt que au moins les gens ont les allocations de chômage et autres là-bas, que nous aussi on puisse les approcher. Donc la démocratie en recul aux États-Unis, ça ne doit pas être le fait. Soit c'est la démocratie et on voit les règles de démocratie et qui sont basées sur la liberté des citoyens. Bien sûr, quand on parle de liberté, et la liberté, chacun se limite là où celle de l'autre commence. N'applaudissons pas parce qu'il y a un recul, mais nous devons progresser dans la preuve.
Merci, Germain.
Il va de l'intérêt de nous tous.
De la liberté de presse à la liberté de manifestation, c'est le vieux combat. Pour certains, la bouteille est à moitié pleine, pour d'autres, elle est seulement à moitié vide.
Là, je ne pense pas que le professeur David Dossé a reçu son prix parce qu'il manifestait. Hein. Sinon, le frac aurait reçu ce prix avant David Dossé. Non, ce n'est pas une question de manifester. C'est parce qu'il a posé des actions, on dit depuis une quinzaine d'années. N'oubliez pas qu'il a été à la tête du Saint-Faute. Donc il a milité dans les syndicats, même en dehors du Togo, ils ont eu à tenir un certain temps. Ça n'a rien à voir avec les manifestations. Maintenant, certains pensent que l'activité principale d'une association ou d'un parti politique, c'est les manifestations de rue. Moi, je ne pense pas. C'est plutôt d'aller sur le terrain. Et là, les élections approchent, par exemple, c'est un peu à faire. Après, certains ont envie de manifester, sauf que la pandémie a servi d'argument à tous les gouvernements où on interdisait les regroupements et après ça a relâché. Mais il faut aussi savoir qu'au Togo, les dernières élections sont passées par là et l'opposition quand même a été déçue par les résultats. Ses militants aussi ont été déçus. Il n'y a pas assez de Togolais qui sont prêts donc pour marcher. Maintenant, pour revenir à la liberté, je crois que le Togo, on ne dit pas que tout est beau, hein, qu'on est au top, mais quand on compare aux pays voisins, au Ghana, à côté où vous êtes journaliste d'investigation, parfois vous êtes abattu, on abat les journalistes au Ghana. Au Cameroun, c'est des cas exceptionnels, le cas de Zogo vient, mais nous, on remercie Dieu de ne pas être passé par là.
Merci. Consolidons ce que nous avons et puis étendons là davantage. Il nous reste une dizaine de minutes et nous allons pouvoir aborder maintenant la problématique ou bien du besoin que l'Afrique redevienne maîtresse de ses richesses et de son destin. Rappel du 2 février 1974, il y a 49 ans, que Gnassingbé Adéma, après l'accident d'avion du 24 janvier précédent, avait nationalisé les phosphates du Togo, ce que Togo réveille et l'éveil de la nation qualifie de épisode de l'histoire contemporaine du Togo. La décision courageuse de la nationalisation du phosphate, hein, le souvenir des événements du 24 janvier et du 2 février 1974, hein, qui est un appel à l'exaltation du patriotisme togolais. De Gnassingbé Adéma au pape François, Louis Magloire, tu as suivi les propos du pape à Kinshasa quand il s'en prenait aux pilleurs des richesses de l'Afrique, ceux qui encouragent, financent ou commanditent toutes ces guerres un peu partout en Afrique. Alors, Adéma en a rêvé il y a 49 ans. Le pape François vient de le réaffirmer. Mais est-ce que nous autres Africains, toi et moi, Camerounais, Togolais, est-ce que nous sommes vraiment disposés à être maîtres de nos ressources d'abord et de notre destin?
Avant même de nous prononcer sur le fait qu'on est disposé ou pas, nous avons une grande difficulté à franchir aujourd'hui, c'est celle de passer d'État à nation. Nous sommes dans la construction de nations qui n'existent pas encore. La colonisation, et je ne veux pas lui attribuer tous les torts uniquement, mais la colonisation a fabriqué des États sans nation. On a mis ensemble beaucoup de groupes ethniques, sociaux, qui n'avaient pas grand-chose en commun et qui ne tirent pas toujours dans la même direction par moment. Et c'est pour ça que dans l'assassinat de Lumumba, par exemple, vous avez des Kassaïens et d'autres ressortissants de l'ex-Zaïre du Congo de l'époque qui considéraient que c'est une bonne chose de l'assassiner parce que c'est un élément perturbateur pour l'intégration nationale et pour la construction du Congo qui venait d'être indépendant. Et vous avez la même chose avec aujourd'hui ce phénomène de tribalisme qui est exacerbé dans nos pays et qui empêche son développement. Non seulement on ne donne pas leur chance par moment aux gens, simplement parce qu'elles appartiennent à la mauvaise ethnie, mais par moment, on arrive même à considérer que s'il arrive du mal à certains groupes ethniques, c'est très bien. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que nous faisons bloc. Nous rêvons du panafricanisme. Nous rêvons d'une Afrique unie et solide, un peu comme les États-Unis d'Amérique, mais nous avons une étape importante à franchir, c'est celle de nous sentir, de faire nation ensemble. Et pour le moment, nous ne faisons pas nation. C'est la première étape à réussir. Et si nous réussissons cela, nous pourrons nous sentir fiers, par exemple, de dire « le Togo a nationalisé son phosphate et c'est tant mieux pour nous, les générations actuelles, et surtout tant mieux pour les générations à venir, parce que nous serons maîtres de notre destin, maîtres de nos richesses et maîtres surtout de la gestion de nos biens, à la fois les ressources humaines et souterraines. » Je dis cela pour relever le fait que aujourd'hui, certaines personnes se sont mises en tête que si l'alternance ne se pratique pas à la tête du pouvoir, si le tour de leur groupe ethnique n'arrive pas, il peut arriver tous les malheurs au pays, ça frappera, ce sera la faute des personnes qui sont à la tête du pays. Et ce n'est pas ça qu'il faut promouvoir. Ce qu'il faut promouvoir, c'est l'intérêt général. Se dire que par moment, même si je ne suis pas d'accord avec les autorités, personne n'a le monopole de l'amour du pays. Nous l'aimons tous d'une manière ou d'une autre. Mais si vous déniez aux gens l'amour du pays, si vous estimez que le tort qui leur est fait en tant qu'autorité ne fait pas du tort au pays, je pense qu'il y a un problème. Et c'est ce patriotisme-là et c'est cet esprit de nation que nous devons bâtir aujourd'hui pour commencer à nous sentir concernés chaque fois que nos pays sont engagés.
Merci Franco. Nous continuons à accuser ceux qui nous ont colonisés hier et qui continuent toujours à être derrière pour commanditer les dirigeants de nos pays pour continuer à piller le continent africain. Mais comme l'a dit Louis Magloire, est-ce que le sentiment de nationalisme est vraiment ancré en nous, qu'on soit président de la République, journaliste ou Zemi Yaman?
Cela devrait se traduire par des faits, palpables. Et vous savez, la sagesse de Yadema, c'était nous n'avons que l'indépendance politique, la vraie indépendance, elle est économique. Et avec la nationalisation dont on nous a parlé, mais à qui profite tout ce qui appartient comme richesse du Togo? Et quand je prends le port autonome de Lomé, à qui ça profite? Et quand je prends tous les Togo Télécom, c'est-à-dire que les télécoms du Togo, là, quand je vais dans le fondement, au niveau même du phosphate togolais, qui peut nous dire aujourd'hui combien le phosphate togolais rapporte au budget du Togo? L'année dernière, les phosphates du Togo ont été, c'est-à-dire que le tonnage exploité était à 15 000 tonnes, je crois, non, 1 500 000 tonnes, avec un flux financier qui devait être situé autour de 180 quelques milliards de francs CFA. Mais nous avons cherché cette année, lorsque nous étions en train de discuter du budget, à voir quelle est la contribution des sociétés d'État au budget, qui devait être dans l'ordre de 60-61 milliards de francs CFA. On n'a pas trouvé cette fiche-là. C'est-à-dire que ce fichier a été extirpé du document de la loi des finances. Alors que par le passé, il y a 2 ans, quand vous prenez la loi de finances, vous voyez, il y a au moins 2 pages consacrées et on dit le port, voilà tel montant, la Togo Télécom, voilà tel montant, les banques, et est-ce que vous voyez? Mais on le cherche, on ne le trouve pas. Donc, à qui profitent ces ressources? Encore que le phosphate, cette année, a fait un bond, c'est-à-dire l'année dernière, a fait un bond spécial. Allez voir là où on extrait le phosphate. Pendant que les populations sont pauvres, ceux qui y travaillent et qui ont des postes les plus juteux, ils ont des immeubles partout dans le monde. Donc, c'est ça ce qu'on dit. Est-ce que nous sommes nationalistes? À la place du blanc colon, on a placé plutôt, disons, des nationaux qui sont peut-être pires que le colon.
Oui, justement, et c'est ce que nous vivons. On va finir avec Germain Pouli. Le problème, ce que les Africains reprochent généralement à leurs dirigeants, c'est une bonne répartition équitable des richesses dans un sens vraiment national pour que tous les pans de la société se sentent concernés par le gâteau national.
Oui, tout à fait. C'est ce que on demande, une meilleure répartition des richesses, hein, ce qui est une bonne chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, la donne en change progressivement parce que avant, l'Afrique exporte et elle dit que les Blancs viennent piller parce qu'ils ne paient pas à sa juste valeur, donc ce qu'ils prennent ici. Aujourd'hui, la tendance est d'aller vers la transformation de nos matières premières. Et parlant de phosphate, justement, il y a à peu près 2 mois, il y a eu une rencontre sur la sécurité alimentaire ici à Lomé, où la chef du gouvernement qui a présidé les travaux avait annoncé que le chef de l'État était en train de s'activer pour que, à partir du phosphate togolais, on puisse faire de l'engrais pour pouvoir alimenter l'agriculture dans plusieurs pays.
Ça fait déjà plusieurs décennies que ce projet est annoncé, mais jamais réalisé. Déjà du temps de Gnassingbé Yadema, on en parlait.
Je dis, il n'y a pas 2 mois que la chef du gouvernement l'annonçait à l'hôtel.
Et je te rappelle que c'est une musique qu'on connaît depuis des décennies.
Non, je crois qu'il y a depuis 4 ou 5 ans, il y a quand même eu des discussions assez avancées. Aujourd'hui, que l'agriculture africaine en général est confronté au problème des engrais du fait de la guerre en Russie, où les Russes et les Ukrainiens n'arrivent plus à nous fournir parce qu'on ne savait même pas que l'engrais venait de là. Aujourd'hui, il est temps que nous qui donnons ces matières premières là pour qu'on les transforme en engrais, qu'on commence par penser surtout qu'on est à la phase de l'industrialisation et au besoin de transformer localement. Après, le patriotisme dont on parle, c'est consommer aussi les produits de chez nous. Et tant que ce que nous produisons, le peu qu'on produit, on ne le consomme pas, et qu'on continue à attaquer les Occidentaux, à attaquer les Chinois, tout ce qu'on veut, alors qu'on se nourrit. On est nourri par eux, on est vêtu par eux. Donc, le patriotisme n'est qu'un slogan qui n'a pas de valeur parce qu'on ne le vit pas. Hein, dans nos gestes au quotidien, c'est pas l'Afrique, c'est pas nos pays, mais on le chante, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains débats. Donc, il faut peut-être revenir et pratiquer ce patriotisme-là, comme l'ont fait les Chinois à un moment. Il faut qu'on s'occupe de ce que nous produisons et qu'on produise aussi ce que nous consommons. Ça passe par là. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut être indépendant. Ce n'est pas en taxant l'Occident de venir nous piller, même si l'Occident quitte. Je ne pense pas qu'on pourra remplacer l'Occident. On ne pourra pas prendre sa place parce qu'on ne pourra pas produire ce que l'Occident produit si on ne commence pas.
Autrement dit, vivement que nous passions du stade d'État à de véritables nations avec un véritable sentiment national et ne pas aller jusqu'à prêcher l'apocalypse contre son pays parce que on ne serait pas d'accord avec un individu, qu'il soit au pouvoir ou bien en dehors. Et c'est ce sentiment qui va devenir vraiment le ciment et qui fera que ma gloire sera d'abord fière d'être camerounais et que Sorana fière d'être togolais, comme je le suis d'ailleurs. N'est-ce pas,
Sorana? Oui, nous sommes suffisamment fiers.
Non, en fait, moi, je suis fier d'être togolais,
fier d'être
même
togolais.
Si je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Mais je sais que, et à la matière, il y a ce parti politique que feu Albert Tebouedre avait créé au Bénin, qui s'appelait Notre Cause Commune. Si nous savons que le Togo est notre cause commune, alors nous serions vraiment prêts à le chanter avec toute la bravoure et à en être fiers. Et que chacun du président de la République à la vendeuse de Colico, chacun réfléchisse et travaille dans ce sens. Il est midi, passé de 2 minutes. Nous allons suspendre nos débats le temps que la technique adresse un clin d'œil à nos partenaires. Et puis nous renouons avec vous les deux numéros, le 22 21 33 74, le 91 36 63 75. Et là, nous recueillons vos commentaires et vos questions sur les sujets que nous avons développés aujourd'hui.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, nous revenons au studio ici. Nous sommes disposés à recevoir vos questions, vos commentaires. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet que nous avons développé. Et ainsi, les confrères pourront vous répondre aux besoins. En attendant, a déjà un auditeur en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, le plateau.
Ah, Didier.
Oui, bonjour, monsieur Poulet, bonjour, monsieur Kemaro, bonjour, monsieur Tampa.
Oui.
Je voulais encourager monsieur Tampa à lui dire beaucoup de courage, que un jour tout s'arrête dans ce monde, quoi. De garder courage, oui. Ça va aller un jour.
Garder courage et foi.
Aussi, monsieur que... Allô?
Garder courage et foi.
Garder courage, là, ça va. Tu sais, la lutte démocratique, là, c'est une lutte continuelle. On le fera jusqu'à ce que ça marche un jour. Nous le ferons tous, si nous le verrons pas, nos enfants le verront. Et je voulais rebondir sur la question de M. Kema, pour le rappeler à M. Kema, qu'en France, il y a les gilets jaunes. Mais en cas de problème, il y a des policiers les policiers et les forces de l'ordre qui sont traduits en justice en cas de violence sur les manifestants. Mm-hmm. On n'interdit pas les manifestations. Enfin, moi, j'ai passé par plusieurs manifestants en Europe. On voit comment ça se réprime. Ici, sur le contraire, si on a vu les gilets, on a soutenu, mais quelqu'un devait tirer sur un manifestant. Est-ce qu'on a, il y a un procès? Aux États-Unis, il y a les procès de policiers contre la barbarie, contre le truc là. Mais ici, ça ne fait pas bien. C'est ce que nous disons. Il ne faut pas nous manipuler. Nous disons que la démocratie revient dans tout le pays, mais c'est pas de la même façon que dans le pays. Et puis, pour finir là, je voulais poser une question à monsieur Pouli.
Oui.
Monsieur Tampa disait qu'il n'y a pas de trace du l'agent du FOSA dans le budget. Est-ce qu'il peut nous confirmer si c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, où sont partis ces... Pourquoi ces partis ont été expulsés dans le budget? Merci beaucoup.
Je vous en prie, Didier, Kemayo et Germain vous répondront dans un moment, le temps que nous prenions le l'auditeur suivant en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Oui. Ah, et si?
Oui.
Bon, on est tous estimés hein, par le débat continuel qu'on fait depuis toujours, quoi. Mais bon, est-ce que la RAC, là, il y a des noms qui me survivent, là. La RAC, est-ce que ça existe en France, ce nom-là? L'autorité, tout ça, là. Est-ce que ça existe?
Okay.
Les Africains se plaisent à utiliser des mots honorables, excellence, pouvoir, régime, tout ça là, qu'on arrête ces trucs pour penser au développement.
Merci.
Voilà. Et qu'on si arrête tout ça aussi, voilà.
Je vais demander à Louis.
Et puis voilà.
Oui.
Et la RAC a fermé Liberté, a mis un truc de 3 mois. On n'a pas de travail dans le pays. Le peu de personnes qui se créent leur emploi, si on les ferme encore, qu'est-ce qu'on devient là?
Mm-hmm.
Hein? Et puis même la presse, ça ne marche pas. On n'a pas d'argent pour en acheter. Et si on ferme le peu de personnes qui leur achètent pour qu'ils vivent, qu'ils survivent un peu, on les ferme pour un long.
Ouais,
c'est
merci.
Pas normal. On avait, et je voudrais dire aussi que il faut, bon, l'Afrique est à lambeau, hein, par des guerres infantiles, par tout ce qu'on veut. Et c'est dû à quoi? Il faut alterner dans nos états. Parce que on alterne, bon, quand on alterne, comme en France, par exemple, ils font 4 ans. Ça booste.
Non, le mandat en France, c'est 5 ans.
Le népotisme,
et si,
que
et
quand
si,
tu viens 4 ans, tu seras
si,
profiter.
En France, le mandat présidentiel est de 5 ans.
C'est 5 ans, oui. Ils l'ont changé en 5 ans.
Oui, c'était 7, voilà. Mais ils l'ont ramené en 5 ans.
5 ans, d'accord.
Oui.
C'est les États-Unis qui font 4 ans.
4, États-Unis, Brésil,
c'est limité, autres. Mais ils font 2 fois 4 ans.
Oui.
Bon, donc il faut alterner, sinon le népotisme et le tribalisme est inné en nous.
Merci, merci beaucoup, Essi.
À tout être humain.
Je vais demander à Louis Magloire. Essi, merci beaucoup, Essi. Je vais demander dans un moment à Louis Magloire si en France, il y a l'équivalent de notre hack ici.
Allô.
Le temps qu'on prenne le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Ali.
Ali, oui.
Merci au plateau.
Oui.
Ce qui est pratique... je vous ai une fois dit que votre émission est laissée parce que on doit justifier à l'international qu'au moins on appelle les radios, on fait les débats sur les radios. C'est juste une manipulation de la justice sur la hâte qui se concrétise. Comment une affaire en appel, en cassation, on exécute la décision? Et la hâte nous fait savoir que c'est comme c'est la justice qui a demandé du droit faire.
L'ami Ali, écoutez d'abord, la cour d'appel a tranché hein, sur le recours de Liberté.
S'il vous plaît.
L'ami Ali, hein, c'est nous les journalistes, vous êtes auditeurs, que chacun joue son rôle. Je vous dis que suite au recours de Liberté, la cour d'appel a jugé et a tranché. Et c'est suite à la décision de la cour de justice, à la cour d'appel, que la HAC a confirmé les sanctions.
Mais entre-temps, Liberté a un droit d'exister.
Oui. Concernant les sanctions,
oui.
On doit sanctionner pour pouvoir redresser et non détruire. Liberté paraît chaque jour. On dit 3 mois. Il faut voir le nombre de parutions.
Oui. Et Ali, nous avons dit ça ici. Nous avons relevé les conséquences économiques hein, de cette suspension.
C'est inexact. Tampa paraît 2 fois dans le mois. On dit 3 mois. Et dans tout ça, il n'y a pas, retenez-vous, un consultant juridique à la HAC. C'est pas sérieux.
L'ami Ali, je comprends toute votre frustration. Seulement, je vous exhorte à un peu de patience. Nous allons y arriver si nous avons foi dans le Togo démocratique et bien gouverné que nous souhaitons. Le suivant, bonjour.
Bonjour, M. Sad.
Oui.
Je suis parti de Sabado.
Oui, nous écoutons.
M. Sad, je vous remercie beaucoup de tempérer les gens, de demander aux gens de patienter. Parce que ce qui s'est passé, il me paraît que les deux journaux condamnés ont reconnu leur faute. Maintenant, il s'agit d'une question de procédure judiciaire. Je vais demander quand même à la HAC de se comporter comme père d'enfant. Parce que quand même la justice condamne et que la HAC intervient pour plaider, je crois que la justice va mettre de l'eau dans son vin. C'est de là où moi je vais parler. De ça je vais parler. Donc en suppliant, en demandant à la HAC d'intervenir pour plaider à la faveur des journaux suspendus. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, l'ami Kossi de Sagbado. Il y a un autre auditeur en ligne. Bonjour. Allô, l'ami? Il n'a pas le retour. En attendant, le suivant. Ah, il est déjà là. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sadi.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Kokou.
Kokou.
Oui, Kokou d'Adidogomé.
Adidogomé.
Oui, ma question va, monsieur. Et d'abord.
Alors, l'ami Kokou? Aussitôt annoncé, aussitôt perdu. Bonjour. Alors, c'est Kokou qui revient, bien un autre. Oui, les aléas du direct, c'est pas toujours commode pour le pauvre animateur.
Allô, allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est monsieur.
C'est Johannes.
Johannes, oui, allez-y.
Vous savez, dans ce pays, pendant que nous, on disait, malgré les débats qu'il y a sur votre antenne aussi bien que d'autres antennes, malgré tout ça, nous on s'inquiétait de plusieurs choses. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arbre qui va cacher la forêt qui va nous tromper. On se disait, attention, la liberté d'expression, la liberté des journalistes n'existe pas au Togo, ou plutôt n'est pas comme elle devait être. Mais on se dit non, hier, ce genre de débat, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, on peut le faire, donc la liberté d'expression y est. Et nous, on disait que c'est en ce même moment que la HAC, la HAC, par l'intermédiaire de son pouvoir, essayait de museler certains médias. C'est-à-dire, on ciblait des médias, on les muselait. Il y a eu l'alternative, liberté, tout ça. Et voilà qu'aujourd'hui, liberté est encore frappée. Nous disons simplement, c'est-à-dire, moi, je dis simplement, c'est-à-dire que on ne peut pas nous dire aujourd'hui que le Togo est un pays du droit. La liberté d'expression n'est pas respectée. Quand vous dites que ce n'est pas la HAC ce n'est pas la justice qui a demandé à la HAC d'avaliser, mais est-ce que la HAC, il appartient à la HAC de confirmer une décision de justice? Est-ce qu'il appartient à la HAC d'exécuter? La justice est à part, la HAC est à part. Si la HAC prend une décision, la justice n'a rien à voir là-dedans. Si la justice prend une décision, la HAC n'a rien à voir dedans. La décision peut être exécutée sans que la HAC ne précise quoi que ce soit. La manière dont les choses se sont passées, ça semble être une non-dépendance de la HAC à l'égard de la justice. Comme si la HAC se sert de la justice pour sanctionner, ou plutôt la justice se sert de la HAC pour sanctionner. De toute façon, nous disons bienvenue au Togo où il n'y a pas la liberté d'expression. On le sait tous depuis.
Merci. Vous êtes quand même content d'avoir exprimé librement votre point de vue dans le club de la presse. Et j'en suis heureux. Et je remercie tous ceux qui ont pu entrer en ligne. Alors, il y a quelques questions. Alors, Magloire, tu vas souvent en France où tu as vécu longtemps. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la HAC en France?
Oui, bien sûr. L'équivalent de la HAC en France s'appelait, jusqu'à l'avènement des communications électroniques, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mm-hmm. Puis ça a été transformé en ARCEP. L'ARCEP qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Mm-hmm. Okay. Donc on a un équivalent en France de cela. Et au niveau européen, il y a des équivalents puisqu'ils ont une association mm-hmm. qui rassemble ce type d'institution.
Merci. Notre auditeur Didier voulait te relever à ton endroit que en France, les policiers encadrent les manifestants. Et si un policier est soupçonné ou confondu d'avoir versé dans l'excès, il est passible de justice Alors que ce n'est pas toujours le cas chez nous ici. C'était Didier qui relevait ça.
Oui, il peut le relever parce qu'il a l'impression que c'est le cas. Mais je crois que l'impunité, c'est l'une des choses contre lesquelles on doit se battre tous. Et je crois qu'au niveau de l'État togolais, il y a cette lutte-là pour empêcher qu'il y ait impunité. La plupart des forces de l'ordre ou de sécurité qui sont confondues, à ma connaissance, ont toujours été traduites devant la justice et ont été sanctionnées par exemple, par le fait qu'elles ne continuaient pas d'exercer leur métier ou qu'elles étaient mises en congé d'exercice de ce métier-là. Donc je pense qu'en France, comme au Togo, cela se fait, peut-être avec moins de publicité, mais le fait est qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Je ne dis pas que la démocratie togolaise est aujourd'hui une démocratie qui peut se comparer à celle des États-Unis, de la France ou d'autres pays. Cependant, reconnaissons qu'on ne peut pas passer d'un absolu à un autre. On ne peut pas dire qu'on a totalement de la démocratie d'un côté ou pas du tout de démocratie ou que le Togo n'a jamais connu...
Merci à la matière. Nous savons également que beaucoup, enfin un certain nombre de policiers, de gendarmes qui sont souvent traduits dans des conditions de discipline, certains même réformés pour ne pas dire sortis de leur corps. Et puis je rappelle que depuis décembre 2022, nous avons, enfin, il y a une loi qui réglemente les tribunaux militaires. Nous vous en dirons davantage quand on en saura. Germain, l'ami Didier voulait savoir aussi si tu as une idée de la part des forces du Togo dans le budget du Togo.
Ah, celui qui donne la formation, c'est Francisco. Non,
Franco l'a dit, et comme tu semblais un peu en douter, c'est pourquoi il t'a relancé.
Non, je n'ai même pas parlé de la part du budget.
Maintenant, mais là-dessus, ce que je pourrais dire, on a connu cela au Cameroun à une certaine époque, c'est-à-dire que le Cameroun avait décidé que le pétrole était un bien public qui servait à la régulation des flux financiers au sein du gouvernement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine caisse de péréquation qui était installée et qui était gérée par le pétrole par rapport au prix des produits alimentaires, le cacao, le café et d'autres produits de ce type-là. Quand leur prix était fluctuant, au niveau du Cameroun, mm-hmm. les paysans ne le ressentaient pas parce que cette caisse de péréquation créée et financée avec l'argent du pétrole, permettait de résoudre ce problème-là. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est le choix qui a été fait par le Togo, ouais. mais il est à peu près certain que si le choix a été fait de ne pas faire apparaître l'argent du phosphate dans les lignes budgétaires, c'est pour de bonnes causes, je ne sais pas lesquelles encore, mais...
Peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Germain,
Oui, non, j'en sais rien, je ne sais pas si effectivement il n'y a pas cette ligne. Et s'il n'y a pas, ça me surprend hein, que tous ces députés-là qui ont eu à analyser ce budget-là, mm-hmm. n'est pas eu à le relever parce que justement on ne peut pas adopter un budget sans qu'il ne transite par l'Assemblée nationale. Okay. Donc, l'Assemblée a même été formée plusieurs fois pour étudier le budget.
Okay. Pour voir mieux. Donc je vais ramener la question à Franco. S'il confirme que oui ou non, il n'y a pas trace de la participation du phosphate au budget du Togo 2023. Oui. Franco,
il y a une ligne, les ressources non fiscales. Qui font, je crois, 61 ou 62 milliards de francs CFA en globalité. Mm-hmm. Maintenant, il y a une page qui porte les détails, ce que le port apporte, ce que le phosphate apporte, ce que toutes les sociétés. Donc, c'est que ces pages-là, on a interrogé même les députés à l'Assemblée nationale. Personne, pour l'instant, c'est-à-dire, on a l'impression que ce que les ressources non fiscales, ce que les sociétés apportent, on ne veut pas qu'on puisse le voir. Mais, mm-hmm. mais Magloire vient de donner peut-être une idée.
Non, il parlait de, disons, du cas
oui,
du Cameroun.
Qui peut être un prochain raisonnement okay. pour justifier. Voilà.
Okay. Pour terminer, il y a deux auditeurs qui sont revenus sur vos sanctions contre Liberté et Tampa Express. À les écouter, j'ai l'impression qu'ils en savaient beaucoup plus que moi. Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cela en une minute. Oui,
je voudrais faire une précision sur la sanction de Liberté. Mm-hmm. Liberté a fait un article. Il a été à une rencontre à la HAC. Oui. La HAC lui a demandé, et ensemble, ils se sont entendus, de faire un rectificatif. Oui. Un rectificatif, c'est que, quelque part, et c'est comme un règlement à l'amiable, oui. où, en quelque sorte, tu reconnais avoir commis une erreur. Mm-hmm. D'accord. Et en principe...
Donc Liberté a publié ce rectificatif.
Ce rectificatif.
J'en avais parlé dans ce studio.
Voilà. Et la suite, une plainte est venue de la justice.
Oui.
Donc les gens se sont servis du fait que Liberté a reconnu son tort.
Oui.
Et quelque part déjà. Donc il est dépourvu de moyens de défense vis-à-vis de la justice.
Mm-hmm.
Alors
comme
que
une espèce de plaidé
coupable. Voilà, alors que à la Hague, il pouvait refuser de ne pas faire
suite à ça,
ou demander un droit de réponse. Voilà.
Suite à ça, Liberté a été condamnée en première instance.
En première instance,
Liberté a interjeté appel.
Alors, est-ce que la cour d'appel a statué sur la plainte de la cour de d'appel Liberté? A confirmé. D'accord.
Quand la cour, j'espère que les auditeurs écoutent bien le développement.
Quand
de
la
Kampo.
Cour d'appel a confirmé,
oui.
Liberté a interjecté appel au niveau de la Cour suprême,
mm-hmm.
qui fait d'office même suspension de la décision de la Cour d'appel.
Oui.
Mais on a l'impression que la HAC voilà, s'est empressée peut-être, ou on ne sait pas, mm-hmm. l'agenda pour agir avant même donc, que
autrement dit,
la Cour suprême le travaille.
Suite au verdict de la Cour d'appel, Liberté a encore interjeté appel devant la Cour suprême. Et
la Cour suprême ne s'est pas
en principe suspensive de l'exécution de la décision de la Cour d'appel. Et c'est à ce niveau qu'on peut s'étonner que la HAC est un peu empressée de prononcer la suspension alors que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée.
Je suis clair.
Okay.
Voilà. Maintenant, pour Liberté et pour Tampa Express,
oui.
Nous avons été conviés. La HAC nous a entendus. Il y a beaucoup de moyens. Et nous sommes prêts à publier un droit de réponse. D'accord.
De Monsieur Gaffin.
De Monsieur Gaffin. Nous sommes prêts à publier un démenti. Bon, nous n'avons pas eu.
On ne vous a pas laissé
toute cette chance.
Le choix de ces armes-là, c'est la suspension.
La suspension est excessive sans avoir eu au préalablement des avertissements comme le prévoit la loi, comme la mise en demeure jusqu'à une sanction extrême. Donc voilà tout ce qui cloche dans le dossier.
Merci. Le débat va rebondir sûrement la semaine prochaine. Pourquoi pas, d'autant puisque les membres de la HAC, ce n'est pas des troncs d'arbres, hein. Ce sont des hommes et des femmes, et surtout, hein, ce sont des confrères, ce sont des aînés que nous avons vus à l'œuvre. S'il y a de nouveaux développements, c'est avec plaisir et par devoir que nous y reviendrons. Le temps pour nous de recueillir rapidement vos cartons de fin d'émission. Franco?
Oui, bon, c'est un coup de cœur à l'endroit de Ifodié d'Atakwame. Vous savez que le stade synthétique de Ifodié d'Atakwame a été hautement financé par la FIFA. Et il était prévu que la mairie s'occupe de
la commune Golf, plutôt Ogou 1, oui.
S'occupe de l'entretien du gazon, et les moyens ont été mis, mais semble-t-il que la fédération a créé un comité qui fait bloc, donc qui ne donne pas les moyens à la mairie de s'occuper des gazons, dont les gazons ne sont pas bien entretenus. Il y a des chewing-gums que les gens mâchent qui sont sur le terrain, qui résistent, alors qu'il faut les ramasser automatiquement. Ouais. Il y a les tracteurs que la FIFA
autrement
a dotés.
Dit, la pelouse synthétique de Ifodié a besoin d'entretien.
Et c'est urgent.
Et c'est urgent. Merci beaucoup. Germain Soranapoli.
Moi, c'est un carton vert que j'adresse à un cabinet. Le cabinet, c'est E2A, donc, qui est dans l'expertise fiscale, qui a pris sur elle donc de former les acteurs sur la nouvelle loi de finances qui donne pas mal d'avantages aux salariés et aux entreprises. C'est important. Vous savez que les entreprises sont au cœur de la vie économique, c'est la santé financière du Togo. Et plusieurs Togolais ne connaissent pas la loi de finances qui a été votée, qui a des avantages, et que ce cabinet-là, cabinet créé par l'ancien commissaire Adoï, le commissaire
Adoï. Notre ami Adoï Sawavana.
Donc, il a inauguré sa séance de formation-là. J'ai eu l'occasion de participer.
Et j'espère que tu as bien compris.
Je crois que je retournerai
pour
mieux.
Merci. La preuve, c'est que Adoï nous démontre qu'on peut toujours rebondir. Yes. Et ça vaut vraiment carton vert.
Coucou à lui.
Louis Maloua, Kemayou.
Le mien de carton, il ira à la médiatrice de la République qui est en train de mettre en application cette idée que quand on est au service de l'État, on doit
être transparent dans les biens que l'on possède, dans la déclaration de ses biens. Elle a commencé à informer les autorités là-dessus. Elle était avec le ministre Trémua pour en parler. Et je crois que c'est une bonne chose quand, dans un pays, les dirigeants qui sont au service des populations et de l'État se plient à cet exercice-là et permettent aux uns et aux autres de comprendre que quand on dirige l'État, on est d'abord à son service, y compris dans le respect des lois qui demandent la déclaration des biens.
Merci, Carton Vert, à vous, vous tous qui avez défilé dans ce studio depuis lundi. Carton Vert également aux techniciens, Carton Vert aussi et surtout aux auditeurs qui se donnent le temps de nous écouter pendant 90 minutes. D'abord, ils nous écoutent pendant 60 minutes et après, ils entrent en ligne et ils nous critiquent, ils nous apportent des éléments de compléments, d'informations. C'est ensemble que nous formons le club La Presse.
C'est de l'interactivité.
Interactivité, proactivité. Maintenant, nous avons deux jours pour nous reposer. Et puis lundi, ce sera le 6 février, nous reviendrons ici au studio, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Canal FM.